Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Et durant les 20 prochaines minutes, nous attendons vos témoignages sur les conséquences des pluies diluviennes qui ont frappé ces derniers jours et ces dernières semaines plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. C'est le cas notamment en Côte d'Ivoire où les pluies ont fait de nombreux dégâts, notamment à Gagnoa, à San Pedro ou encore à Abidjan, la capitale économique où dès qu'il pleut, certains quartiers sont quasiment coupés du monde. Le dernier bilan du gouvernement fait état de 15 morts et de 25 blessés. Au Nigeria, les violentes précipitations ont eu des conséquences sur les conditions de vie des personnes qui fuient en ce moment le conflit contre le groupe djihadiste Boko Haram. Dans le nord-ouest du pays, 44 camps de déplacés ont été endommagés et les humanitaires craignent la propagation d'épidémies. Des dégâts également à Lomé, au Togo, où les inondations ont affecté 29 quartiers, faisant près de 3000 sinistrés. Le Bénin n'a pas été épargné, notamment Cotonou, où plus des trois quarts de la ville ont eu les pieds dans l'eau. Au Niger, les fortes pluies ont fait une quinzaine de morts, principalement à Niamey, où les dégâts sont très importants. Alors, quelles leçons faut-il tirer de ces inondations? Racontez-nous comment se déroule la prise en charge des sinistrés et dites-nous finalement ce que font vos pays pour anticiper la saison des pluies. On le sait, chaque année, la saison des pluies commence à cette période-ci, fin mai, début juin, donc juin, juillet, août. Il pleut dans une grande partie de l'Afrique de l'Ouest. Vos témoignages, 33 9 693 693 70. En tout cas, vous êtes très dur à l'égard des autorités, des municipalités. Quand je lis vos réactions sur la page Facebook de l'émission, par exemple, Fabiane qui nous dit « C'est un phénomène qui ne cesse de faire des dégâts, mais chaque année, on remarque que les autorités togolaises n'ont aucune stratégie pour prévenir les inondations. » Ahmed, qui est en Côte d'Ivoire, nous écrit « D'année en année, on revient sur les mêmes constatations. On ne tire aucune leçon des dégâts antérieurs. À Abidjan, par exemple, le plan de réorganisation de la ville s'élève à peine à 7 milliards de francs CFA. Mais comme les dirigeants ne sont pas touchés par les dégâts, eh bien c'est au petit peuple de se débrouiller. » Justement, nous avons des témoignages d'Abidjan. Bonjour Christian.
Bonjour Juan.
Bienvenue, nous vous écoutons. Vous êtes vous aussi assez critique à l'égard des autorités. Vous disiez au Standard, on aurait pu éviter les 15 morts de ces derniers jours en Côte d'Ivoire.
Effectivement, on aurait pu éviter cela. Je pense que les gouvernements doivent être encore beaucoup plus regardants sur cette situation. Vous savez, chaque année, on nous répète que ah oui, il faut dégager des zones à risque et autres. Il n'y a pas suffisamment d'action en arrière pour permettre que ces personnes qui sont dégagées de ces zones soient relogées. Du reste, on a aussi des zones où de nombreuses populations habitent et rien n'est fait pour les aider à pouvoir avoir un meilleur environnement. Mmh. Donc, j'entends par là Koumassi, par exemple. Hier, sur votre antenne, j'ai entendu dire qu'il fallait environ 7 à 8 milliards pour faire en sorte que la fluidité de l'eau et les routes soient meilleures là-bas. Tout ça, ça peut éviter les inondations.
Bien sûr. Koumassi, on a pu entendre effectivement hier sur l'antenne d'RFI ce reportage de Coralie Pierret, notre correspondante sur place. Koumassi, qui est donc ce quartier d'Abidjan, construit à 50 centimètres au-dessus du niveau de la mer. Et c'est vrai qu'il y a eu des études techniques qui ont été réalisées pour essayer de résoudre ces problèmes d'inondation. Il faut juste, j'ai envie de dire juste, il faut trouver 7 milliards de francs CFA pour financer les travaux de drainage et de rénovation des canalisation. On va vous retrouver dans un instant, Christian. Peut-être déplacez-vous pour qu'on puisse mieux vous entendre. Le réseau n'était pas très bon. Kofi, vous nous appelez également d'Abidjan. Bonjour.
Bonjour, Juan.
Et pour vous, les populations sont en partie responsables des dégâts de ces derniers jours.
Juan, à quoi sert-il de faire des investissements en amont, assainissement, curage des caniveaux, ou même aller déplacer ou casser des quartiers précaires depuis des années pour finalement se retrouver chaque année avec le même problème? Parce qu'en réalité, en aval, la communication qui devrait être faite au niveau des utilisateurs, des bénéficiaires de ces travaux n'est pas faite. Vous passez dans les quartiers d'Abidjan ou même des villes de l'intérieur, les caniveaux servent d'exutoire systématique pour les eaux usées et pour les eaux domestiques. Finalement, lorsque il pleut, ces caniveaux, évidemment, sont obstrués. Et quand ils sont obstrués, évidemment, c'est la réaction en chaîne. C'est évidemment l'Égypte pour tout ce qu'il y a comme maladie parasitaire. C'est la pollution de l'environnement. Et puis, surtout, c'est la dégradation des voies. Donc, on voit bien que avec tout ce qu'il y a comme radio de proximité, tout ce qu'il y a comme radio nationale, comme télévision, comme Internet, comme approche digitale, on pourrait aussi investir à fond dans l'éducation de la population pour ensuite, dans une deuxième phase, passer à la répression.
Oui. Oui, alors il y a Joseph qui nous dit sur Facebook, je vous écoute en même temps, je lis les réactions qui nous arrivent, il est également à Abidjan, il nous dit lui, les torts sont partagés entre les autorités qui gèrent mal les systèmes d'assainissement et les populations inciviques qui prennent les voies d'écoulement des eaux pour des poubelles. Il rejoint là effectivement votre analyse. Christian, vous êtes de nouveau avec nous ?
Oui, je suis là.
Voilà. Vous pointez surtout du doigt la responsabilité des autorités, contrairement à Kofi, qui, lui, estime que les populations pourraient faire davantage et être davantage responsables.
Oui, enfin, c'est partagé. L'État a un devoir d'éducation de ses populations. Les populations, elles sont dans le désarroi total, elles n'ont pas d'autre solution. Et donc, par exemple, comme le disait le précédent auditeur, les populations se permettent de jeter les ordures dans les caniveaux et autres. Mais parce qu'elles n'ont pas d'autres endroits où jeter les ordures. Oui, donc l'État a un rôle à jouer. L'État a un rôle à jouer. Et l'État ne... Je pense qu'à ce niveau-là, l'État...
On va donner la parole à d'autres auditeurs. Vous avez du mal à nous entendre et nous aussi. D'ailleurs, il me semble qu'il pleut. C'est ce qu'on me disait tout à l'heure. Il a beaucoup plu la nuit dernière à Abidjan. Merci à vous, Christian. Bonne journée également à Kofi. Ahmed, sur la page Facebook de l'émission, nous... Ah ben, j'ai lu déjà le message d'Ahmed. Djibril, qui est au Niger. Les autorités jouent aux médecins après la mort. À chaque fois, ils attendent que le malheur se produise pour entreprendre des démarches de secours. Réaction également de Bernie qui est au Burkina Faso. Il nous dit que, comme chaque année, dans les grandes villes comme Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, le curage des caniveaux se fait pendant la saison hivernale, mais les déchets sont stockés pendant plusieurs jours devant les caniveaux. Ils ne sont pas évacués. Il suffit qu'il pleuve à nouveau pour que les déchets repartent dans les caniveaux et donc bloquent évidemment la circulation des eaux. Bonjour Soumana.
Bonjour.
Vous êtes à Niamey, vous nous appelez du quartier de Bobiel, pour être précis, et c'est important de le signaler, puisqu'à Bobiel, l'eau est arrivée, est montée assez haut.
Tout à fait. À Bobiel, je vous apprends que c'est le quartier où habite le président de l'Assemblée, et un quartier qui n'a pas de caniveau, dès qu'il pleut, il est carrément imprité. Il y a certaines routes qui sont coupées, et même la devanture du domicile du président de l'Assemblée, et ça devient impraticable. Pour qu'il aille chez lui, il est obligé de bifurquer. Bref, à Bobiel, il n'y a pas de caniveau. Et ce n'est pas Bobiel seulement, c'est presque un peu de 4/5 de la ville de Niamey, il n'y a pas de caniveau. Les autorités, quand il s'agit de lotissements, ils font des lotissements qui ne sont pas viabilisés. Il n'y a pas de caniveau. Dès qu'il pleut, et la ville, certains quartiers sont impraticables pour aller chez toi. Moi, la dernière pluie chez moi, c'était... L'eau sortait de la douche, mes voisins, tout le monde. C'est impraticable. Il y a une mauvaise politique d'urbanisation. Mais le plus grave, c'est aux côtés sur le lit du fleuve Niger.
Oui.
Chaque année, les grands dégâts se passent sur le lit. Les autorités déguerpissent les résidents, mais avec moins de fermeté. Et l'année prochaine, les gens ils reviennent, ils se réinstallent et il y a des victimes. Il y a vraiment un problème de manque de fermeté de l'État et aussi une mauvaise politique d'urbanisme.
Donc, ce qu'il faudrait, c'est interdire les populations d'habiter justement sur les versants du fleuve, puisque ces versants-là sont inondés systématiquement chaque année. Mais le problème, c'est qu'une fois la saison des pluies terminée, les gens reviennent, s'installent de façon anarchique. Et donc voilà. Et quand on voit le bilan, malheureusement, je le disais tout à l'heure, une quinzaine de morts pour l'instant au Niger. L'année dernière, au moins 50 personnes ont péri dans les inondations qui ont touché plus de 100 140 000 personnes à travers le pays. Je parlais de Niamey, vous êtes sur place Niamey, mais, Soumana, mais à Agadez, il y a quelques jours, des maisons se sont effondrées, plus de 500 animaux sont morts, emportés par les eaux, donc les conséquences sont également économiques pour les agriculteurs dans les pays et les zones reculées du pays.
Voilà, voilà. Donc vraiment, je crois, la responsabilité incombe aux autorités de prévenir ces catastrophes, de prendre des mesures pour atténuer quand même ces catastrophes. Mais moi, je ne vois pas grand-chose sur le terrain. Et c'est comme l'a dit l'auditeur tout à l'heure sur Facebook, c'est le médecin après la mort que l'État joue. Il n'y a pas grand-chose à faire. Et pire encore, au-delà de Niamey, sur le lit de fleuve, il y a des îles qui sont inondées. Quand tu prends un peu en amont, il y a des îles qui ont été inondées et les populations, ils ont été déguerpies. Bon, obligatoirement, ils ont quitté les îles pour venir s'installer sur la rive gauche. Mais juste après, ils sont retournés pour se réinstaller. Oui, l'État n'a rien fait.
C'est ce que je disais tout à l'heure. On en parlait il y a deux minutes déjà, Soumana. En tout cas, merci de nous avoir appelés. Merci de ce témoignage. De Niamey, nous allons à Cotonou. Ambroise, bonjour.
Oui, bonjour Juan.
Bienvenue,
bonjour,
nous vous écoutons.
Oui, oui. Au fait, je crois que l'essentiel a été déjà dit, mais je voudrais simplement rappeler en fait que la responsabilité ici est partagée. Les populations qui déjà utilisent les caniveaux pour déverser systématiquement les déchets, ça c'est un premier problème. Les populations qui s'installent sur les exutoires naturels de l'eau, parce que l'eau a sa route. Et quand vous vous installez là-dessus, il ne faut pas se surprendre à ce que en fait vous retrouvez inondé. Donc c'est déjà ça. Maintenant, quant aux autorités, vous voyez, le plus souvent, c'est la gestion de l'urgence. On ne gère que l'urgence, donc les deux ou trois mois de pluie, parce que là, l'inondation revient dans les médias et tout ça. Mais juste après, ça, plus rien. Mmh. On attend encore l'année prochaine, la prochaine saison pluvieuse, et on va encore gérer l'urgence.
Ouais. Enfin, vous dites plus rien, Ambroise. J'ai lu en préparant cette émission que la mairie de Cotonou mettait en place une campagne contre les inondations. Donc finalement, il y a quand même un engagement de la part des autorités.
Oui, Juan, il y a un engagement. C'est ce que nous appelons ici les 3CI, Cotonou en campagne contre l'inondation. Mais cette Cotonou en campagne contre l'inondation n'apparaît que lorsqu'on est en saison pluvieuse. Mais comment voulez-vous gérer une situation qui est récurrente, qui chaque année des fois revient? Comment pouvez-vous gérer cette situation-là juste au moment où on est en saison pluvieuse, on creuse quelques tranchées par-ci, par-là, on essaie d'écurer quelques caniveaux et puis bon, on arrête là. Toute l'année, vous voyez nos communes, il n'y a aucun effort pour le curage des caniveaux. Absolument aucun. Les déchets sont dans les caniveaux, les populations y mettent un peu de tout, mais attendez seulement la saison pluvieuse et vous allez commencer à les voir à faire des efforts et pas tous les caniveaux. Oui.
Merci Ambroise, et vous n'êtes pas le seul à être en colère. Et par exemple, votre voisin togolais Lazare sur Facebook nous dit « Tous les ans, nous vivons le même drame ici au Togo. La pluie fait des dégâts matériels importants. Le chef de l'État envoie délégation sur délégation pour porter assistance aux malheureuses victimes avec des vivres. Pourtant, aucune disposition n'est prise après la saison des pluies. Aucun travail de réaménagement de bassins de rétention ou de curage des caniveaux n'est entrepris pour trouver une issue au phénomène. » Et Lazare de conclure en disant « Gouverner, c'est prévoir, dit-on. Cependant, nos dirigeants semblent ignorer ce dicton plein de bon sens. » Bonjour Charles.
Bonjour.
Nous parlons de l'Afrique de l'Ouest. Vous êtes à Kinshasa. Vous nous appelez de la commune de Makala, qui est donc un quartier populaire. Et vous aussi, vous avez vécu les pieds dans l'eau.
Ah oui, oui. Ici, comme je viens de suivre également les autres intervenants, ça pose un sérieux problème. Ici, par exemple, c'est un quartier qui risque de disparaître tout simplement puisque chaque fois qu'il y a de pluie, les autorités ne savent pas prévenir comme l'autre auditeur est intervenu il y a peu de temps. Mmh. Donc, gouverner, c'est prévoir. Lorsqu'ils ne savent pas, alors qu'il y a des textes de loi qui datent parfois de plus de 30 ans, puisque déjà j'ai tombé sur un décret du 20 juin 1957 qui organisait le bornage, mesure et bornage des terres, oui. Les lotissements, la procédure de lotissement et les services de cadastre. Sincèrement, lorsque tous ces services ne savent pas réellement faire leur travail, nous sommes désolés et nous pensons que le pouvoir en place ou les autorités veulent tout simplement assister à une sorte de catastrophe pour venir en aide et faire devenir également de moyens de propagande pour eux et de charité, alors qu'ils devaient réellement intervenir à l'avance par,
oui.
par
oui. Vous n'êtes pas le seul, Charles, à être un peu cynique en disant, mais finalement, est-ce que les autorités ne le font pas exprès en disant, en laissant finalement les caniveaux en mauvais état tout au long de l'année, pour venir en aide aux populations au moment des inondations, leur disant, regardez, nous sommes là, proches des populations, nous sommes là, nous venons en aide, c'est un moyen d'une certaine façon de redorer leur blason, comme le disait un auditeur sur la page Facebook de l'émission. Cheikh nous appelle de Bamako. Bonjour Cheikh.
Bonjour Wang.
Bienvenue, nous vous écoutons également sur le problème des inondations en Afrique de l'Ouest.
Merci, je pense que c'est une thématique extrêmement importante. Pour le cas du Mali, j'avoue que nous avons vécu les inondations depuis un certain temps. Elle est essentiellement liée à beaucoup de facteurs, notamment tout ce qui est assainissement, tout ce qui est urbanisation, mais aussi pour la plus grande partie des cas, les inondations au Mali sont liées à la grande période de sécheresse que nous avons connue.
Bien, mais est-ce que vous avez l'impression que les autorités prennent à bras le corps ce dossier ?
Absolument. Pour le Mali, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits, notamment le curage des caniveaux, le redimensionnement de certains caniveaux dans certaines villes, mais aussi la création de systèmes de drainage dans des villes où ça n'existait pas. Mais comme je l'ai dit, la chronicité de la sécheresse a fait que les populations sont venues s'installer dans les versants directs, donc des cours d'eau, et qui fait que chaque forte précipitation fait inonder les populations installées par là.
Ouais, vous avez déjà eu des inondations cette année ou pas encore à Bamako?
Si, à Bamako, il n'y en a pas eu, mais nous avons connu dans la zone du Gourma et dans la ville de Niafouké, dans la région de Tombouctou.
Bien, merci de ce témoignage, Cheikh. Bonne journée à vous. Eric, bonjour.
Oui, bonjour.
Les pouvoirs publics se sont complètement désengagés des questions d'urbanisme. Vous nous appelez de Lomé et c'est ce que vous disiez il y a quelques instants au Standard.
Oui, c'est exact. Et je pense que Lomé, à l'instar de toutes les grandes villes dont les habitants sont intervenus dans votre émission, subit exactement les mêmes incuries de l'administration. On a l'impression qu'il n'y a aucun service d'urbanisme dès qu'il pleut. Or, justement, c'est en aval que le problème doit se régler aussi, parce qu'après les inondations, il faut tirer les leçons. Il faut se poser les questions du pourquoi des inondations et commencer, avant les prochaines pluies, à prendre des mesures. Or, ici, comme partout d'ailleurs, à Cotonou, mais ce n'est pas pour nous consoler, on a le même phénomène. On construit anarchiquement, chacun, dès l'instant qu'il a acheté son lopin de terre, a loti, a construit, et puis c'est tout. On ne se soucie pas des exutoires, justement, pour les eaux pluviaux. Et ça, c'est absolument catastrophique.
Ouais.
Chaque pluie, qui devait être normalement une bénédiction, devient une calamité. C'est le problème. Mais, je ne dirai rien de plus que ce que disent les habitants d'Abidjan, de Cotonou et de Niamey. C'est la même chose.
Tout le monde se retrouve effectivement malheureusement confronté aux mêmes difficultés lors de la saison des pluies. En tout cas, il y a quand même une mobilisation. J'essaie de retrouver dans la documentation que j'ai sous les yeux, une mobilisation des autorités togolaises qui, la semaine dernière, ont dépêché 14 sacs de riz et 3720 litres d'huile. Pour venir en aide aux populations sinistrées, près de 3000 sinistrés rien que pour la ville de Lomé. Merci à tous de votre fidélité. Demain, nous parlerons de toutes ces sociétés financières qui prolifèrent en Afrique et qui promettent des taux d'intérêt mirobolants, mais qui abusent de la crédulité des clients. On en parle à l'occasion d'un procès qui s'ouvre demain au Bénin, procès que certains qualifient de scandale à la Madoff. On en parlera évidemment demain.